Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Alors, on est à fleur de peau ce soir. Je sais pas si on est à fleur de peau, mais ce soir, je reçois Guillaume Rousseau sur des sujets brûlants, donc qui vont peut-être mettre à fleur de peau nos auditeurs, sur ces facs pour cette émission exceptionnelle, puisqu'on reçoit l'avocat, le professeur de droit, celui qui se bat sur le terrain de la loi de la laïcité pour la langue française et qui a écrit un livre sur les Trudeau. Guillaume Rousseau, bonsoir.
Bonsoir Bruno Lebeau.
Alors, ce livre, hein, il vient de sortir.
Oui.
Alors, il est disponible où, comment déjà?
Pour l'instant, la façon la plus facile de se le procurer, c'est sur le site soit de l'Institut de recherche sur le Québec, donc l'IRQ, ou encore sur le site d'Accent Bleu, donc qui est une boutique en ligne où on peut retrouver le livre « La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire ».
Un sujet sensible, les Trudeau?
Oui, quand même. Comme tout sujet politique, c'est un peu sensible. Et le judiciaire aussi, c'est un peu sensible. Donc les deux ensemble, je présume que ça devient très sensible.
Il y a eu une polémique il y a quelque temps. Le Bloc québécois avait soutenu Trudeau. Est-ce que ce n'était pas un peu étrange, compte tenu de l'histoire de 1982?
Ouais, ben en fait, oui et non. Oui, quand on regarde le portrait d'ensemble, c'est toujours bizarre que ce soit le Bloc qui vote avec Trudeau, quand on sait que le Bloc a été fondé en réaction à l'échec de Meach, qui lui-même l'accord du lac Meach était une réaction au rapatriement unilatéral. Donc, moi, j'ai toujours cru que le Bloc était d'abord l'adversaire des libéraux avant d'être l'adversaire des conservateurs. Mais ensuite, bon, sur le plan un peu de la poutine parlementaire, je pense que la motion de censure des conservateurs concernant les libéraux concernait la taxe carbone, la taxe carbone fédérale n'étant pas applicable au Québec, c'était probablement pas le bon motif là, aux yeux du Bloc. Probablement que le Bloc aurait voté une motion de censure si ça avait été contre les ingérences fédérales dans les compétences du Québec. Donc voilà. Après ça, je pense qu'il y avait du bon et du moins bon dans la décision du Bloc. Là.
Mais ça, c'est moins probable.
De?
Un vote sur les ingérences du fédéral dans les provinces.
Le Bloc pourrait forcer un vote de confiance. Ce serait intéressant qu'il fasse cela pour qu'on voit comment voteraient les conservateurs. Donc, refaire le coup que les conservateurs ont fait au Bloc. Ce serait intéressant de faire le coup. Quoique les conservateurs pourraient peut-être plus facilement voter la non-confiance. Et à ce moment-là, bon, ça serait peut-être un bon coup pour eux. Donc,
mais est-ce qu'ils le feraient pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Est-ce qu'ils le feraient pour des bonnes raisons, c'est-à-dire vraiment un souci d'accorder plus d'autonomie aux provinces, ou est-ce que ce serait pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire juste faire tomber Trudeau?
Ouais, en fait, probablement que ce serait un peu des deux. C'est sûr qu'en matière de respect de l'autonomie du Québec, traditionnellement, les conservateurs sont mieux que les libéraux. Mais là, on a vu, par exemple, M. Poilievre parler de conditionner le financement fédéral aux municipalités au nombre de permis de construction. Bon, au Québec, c'est probablement impossible parce qu'il y a une loi qui fait en sorte que le financement fédéral des municipalités doit passer par le gouvernement du Québec, mais on voit que c'est quand même un non-respect de l'autonomie des autres provinces, en tout cas d'aller jouer directement dans les municipalités qui sont de compétences provinciales. Donc, faudra voir. Évidemment, c'est moins pire que M. Trudeau avec ses programmes dentaires, charte des droits des locataires et plein de choses. Il y a comme une campagne d'ingérence dans les provinces assez incroyable. Donc, comparé à M. Trudeau, M. Poilievre a l'air d'être respectueux de l'autonomie provinciale, mais il ne l'est pas tant que ça non plus. Là.
Mais alors, que répondre à ceux qui disent « Oui, d'accord, OK, tout ça, mais quand même, Trudeau, pour le dentaire, pour les assurances, tout ce que vous avez dit,
ouais.
Quand même, il fait des choses qui peuvent être utiles, pour, y compris pour les Québécois. »
Oui, ben c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du très court terme pour deux raisons. D'abord, il y a des déficits monstres à Ottawa qui sont alimentés beaucoup par ces nouvelles initiatives-là. Et un déficit, c'est quoi? C'est une coupure de service ou une hausse de taxes différée dans le temps. Voilà, mm-hmm. C'est aussi bête que ça. Quand on accumule les déficits, à un moment donné, plus tard, il faut couper ou augmenter les taxes. Donc là, ça a l'air d'être gratuit, mais éventuellement, on va payer le prix. Donc, premier problème. Deuxième problème, c'est que lorsque le fédéral intervient dans des champs de compétences des provinces, bien là, ça suppose des négociations. Donc, entre politiciens, des négociations entre fonctionnaires. Puis après ça, des ententes Québec-Canada, des ententes fédérales-provinciales avec des mécanismes de rétition de comptes et tout. Donc, autrement dit, les milliards qui vont être investis par le fédéral vont aller beaucoup dans la bureaucratie, dans les formulaires, dans les ententes fédérales, provinciales, dans les transferts. Puis qu'est-ce qui va rester au bout du compte pour des services aux citoyens? Ça va être une part insuffisante, à mon avis, dans le sens où, alors que si le fédéral faisait juste dire, ben nous, on baisse les impôts ou on baisse la taxe de vente pour que les provinces puissent augmenter leur taxe, leur impôt, ce serait beaucoup plus efficace. Ne serait-ce que parce que les fonctionnaires fédéraux sont beaucoup plus payés que les fonctionnaires provinciaux. Donc, ce serait beaucoup plus efficace si le fédéral se mêlait de ses affaires, investissait dans la défense, par exemple, ce qui, à l'heure de la guerre en Ukraine, n'est peut-être pas une mauvaise idée, et laissait les provinces gérer leurs compétences et que le fédéral ben, libérait en conséquence de l'espace fiscal. Ce serait, on en aurait beaucoup plus pour notre argent. C'est sûr que c'est un petit peu long à expliquer puis que c'est plus compliqué que juste remplir un formulaire puis avoir une assurance dentaire gratuite, mais c'est ça qui va arriver. À terme, je pense qu'on va voir l'inefficacité de ces programmes-là, mais pour l'instant, c'est sûr que ça peut bien paraître pour M. Trudeau.
On peut penser que c'est de la poudre aux yeux. François Legault avait d'ailleurs répondu qu'il existait déjà un système de protection sociale efficace au Québec.
Oui, effectivement. En ce qui concerne l'assurance médicaments, l'assurance dentaire, c'est la même chose pour les garderies. C'est-à-dire que le Québec a souvent plus de programmes sociaux que dans d'autres provinces. Là, les gens à Ottawa veulent, le fédéral veut créer des programmes sociaux qui s'inspirent du Québec. Mais là, le Québec en a déjà. Donc là, ça dédouble ce qui existe déjà au Québec. Il peut y avoir des transferts de fonds, mais ça semble pas extrêmement efficace. On le voit avec les garderies, d'ailleurs. Il y a eu des annonces pour les garderies par le fédéral, puis on n'a pas l'impression d'avoir plus de place en garderie. Donc, tout ça est un petit peu inefficace, particulièrement pour le Québec.
Est-ce que cette affaire de Troisième Lien, qui rebondit encore en ce moment, on en entend parler beaucoup. L'autre jour, sur Internet, j'ai vu une construction qui se fait en Chine, où il y a un pont. Au-dessus, les voitures qui passent, et en dessous, un train, une sorte de métro, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui circule accroché en dessous du pont. Est-ce que ce ne serait pas une solution, finalement, pour mettre tout le monde d'accord au Québec, cette solution chinoise?
Ben, en fait, non, parce que déjà dans la mouture originale de la CAQ, même si ça a varié, donc le gouvernement actuel proposait qu'il y ait évidemment du transport en commun dans le troisième lien, en plus de la possibilité pour les voitures d'y circuler. Et ce à quoi s'opposent des partis d'opposition, c'est qu'il y ait des voitures. Donc, le fait d'avoir et des voitures individuelles et du transport en commun, ça semble pas être suffisant pour les partis d'opposition qui s'opposent, qui veulent uniquement du transport en commun ou encore pas de troisième lien ou pas de tunnel. Il y en a qui veulent un pont. Bon, ensuite, il y a toutes sortes de variantes. Mais le problème, le motif de l'opposition, c'est vraiment la présence de véhicules et non pas... Et donc, le fait qu'il y ait du transport en commun à côté des véhicules, ça semble pas convaincre là, les partis d'opposition.
Martineau, un confrère, puisque maintenant vous écrivez pour le Journal de Montréal,
ouais.
Un confrère à vous disait finalement, les villes sont incapables de mettre en place des véritables transports en commun, un véritable service de transport collectif. Est-ce que ça donne raison à Poilievre? Est-ce que les maires des grandes villes sont nuls?
Ben, en fait, c'est sûr qu'on n'a pas l'impression que c'est extrêmement efficace puis qu'il y a un développement à la hauteur des besoins en termes de transport en commun, et ça depuis longtemps. Alors que si on se reporte à une autre époque avec le métro, ça a quand même été fait dans un certain nombre d'années, mais de manière assez efficace. Et là, l'agrandissement du réseau là, depuis les deux stations qui ont été ajoutées à Laval, c'est très limité ce qui se fait, même s'il y a des projets en cours. Alors, on peut penser effectivement que c'est pas particulièrement efficace à l'heure actuelle, le développement des transports en commun. C'est sûr que c'est l'impression qu'on a.
On a l'impression que c'est pas une priorité, finalement.
Ben, en même temps, ça semble l'être. En tout cas, ça l'est dans le discours.
Oui.
Mais ensuite, on sait que globalement, on est dans un contexte difficile. Donc, vieillissement de la population, inflation. Donc, toute l'inflation, c'est très, très difficile pour les travaux publics parce que les matériaux coûtent plus cher, les travailleurs coûtent plus cher, tout coûte plus cher. Et pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a beau mettre plein de budgets en place puis avoir des chantiers. Ensuite, si les compagnies de construction ont de la misère à trouver des gens pour construire la main-d'œuvre, puis pour tout, là, la comptabilité, les avocats et tout, bon, ben là, ça pose un certain nombre de défis. Donc, il faut comprendre que le contexte n'est pas facile. Mais ensuite, est-ce qu'il y a une génération de gestionnaires puis de dirigeants municipaux particulièrement compétents? Peut-être pas non plus.
Est-ce que l'on manque de main-d'œuvre? Donc, c'est ce que vous me dites. Et en même temps, on sent qu'il y a une tendance à vouloir réfréner l'immigration, au Canada d'ailleurs, tout entier ouais. quasiment, et au Québec plus particulièrement, compte tenu du contexte aussi socioculturel. Est-ce que c'est... Où est la contradiction? c'est quoi,
effectivement, c'est vraiment pas simple. En même temps, le lien entre immigration et pénurie de main-d'œuvre, c'est toujours à relativiser parce que au niveau microéconomique, c'est sûr que si dans une entreprise précise ou dans un secteur précis d'une région précise, vous avez une pénurie de main-d'œuvre, vous faites venir des immigrants, ça règle le problème. Mais au niveau macroéconomique, ces immigrants-là sont des créateurs d'emplois. Ils ont besoin de logements, ils ont besoin d'écoles, et donc ils créent du besoin de main-d'œuvre à mesure qu'ils remplissent des besoins de main-d'œuvre. Donc, c'est pas nécessairement une solution macroéconomiquement, mais c'est sûr que les réduire, si la réduction des seuils d'immigration est aussi mal planifiée que l'augmentation l'a été, ça risque effectivement de causer des problèmes. Donc, l'idée, c'est de voir avec les agriculteurs, avec les PME, avec les établissements d'enseignement, comment on peut, le cas échéant, geler ou réduire les différentes formes d'immigration sans que ça ait des effets catastrophiques, là, notamment au plan économique.
Après, il y a beaucoup d'articles qui sortent aussi, qui montrent qu'il y a aussi des incompréhensions. Par exemple, le cas de ce pâtissier qui est présent depuis 8 ans au Québec, qui est marié, qui a un enfant... Et parce que les papiers lui ont été envoyés, enfin, il a envoyé les papiers pour sa demande de résidence permanente en noir et blanc et pas en couleur. Or, on ne peut pas effectivement les imprimer autrement qu'en noir et blanc. Du coup, le gars risque de se faire expulser. Il y a beaucoup de cas comme ça aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau migratoire dans la gestion de ceux qui sont déjà là, ouais, qui ont déjà une place, un emploi, etc., mais qui sont toujours soumis à une sorte de précarité avec cette épée de Damoclès, une administration très capricieuse qui peut du jour au lendemain expulser quelqu'un qui est parfaitement intégré à la société?
Non, effectivement, il y a autant, je pense qu'il y a peut-être des administrations trop tatillonnes pour plusieurs cas d'immigrants économiques permanents qui sont déjà là. Pensons aux diplômés là, qui ont accès au programme de l'expérience québécoise et tout. Bon, il y a vraiment un type d'immigrant extrêmement désiré par le Québec, là, les francophones éduqués qui sont ici depuis un bout. Bon, on connaît le profil de l'immigrant, entre guillemets, idéal. Et là, il y a des efforts à faire, puis faut certainement pas faire fuir ces gens-là. Puis de l'autre côté, ben, il y a peut-être des efforts à faire pour qu'il y ait peut-être moins de réfugiés. On sait que bon, en diminuant le nombre de pays qui ont besoin d'un visa de touristes pour venir, bon, ben, ça augmente le nombre de réfugiés. Le chemin Roxham, ça a été très long avant de le fermer. De manière générale, bon, il y a beaucoup de services publics gratuits ou très accessibles aux demandeurs d'asile. C'est sûr que ça en attire. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre les types d'immigration puis d'immigration économique permanente. Peut-être qu'il y a un effort à faire de ce côté-là. Et du côté des demandeurs d'asile, bien, peut-être qu'il faut procéder plus rapidement. Mais en même temps, plus il y en a, plus c'est difficile de procéder rapidement. Et il faut peut-être essayer d'en attirer moins, ce qui n'est pas simple. Mais je ne pense pas que tous les efforts soient faits de ce côté-là.
En somme, une immigration choisie plutôt qu'une immigration subie.
Effectivement, comme disait un certain Sarkozy voilà, une quinzaine d'années.
Votre livre, alors c'est du droit, mais c'est aussi de l'économie. Expliquez-moi un peu. Allez, expliquez aux auditeurs
oui,
un peu
donc,
le sens de votre livre.
Oui.
Parce qu'il fait grand bruit, on entend beaucoup parler. Hein?
Oui, en fait, c'est une idée d'un journaliste du Journal de Montréal, donc Antoine Robitaille. Donc, l'idée, ça part qu'il y a quelques années, 5-6 ans, il y a eu un certain nombre de scandales, de problèmes par rapport à la nomination des juges par le gouvernement fédéral. Parce qu'il faut comprendre que non seulement les cours fédérales, mais les cours supérieures du Québec, donc la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec, sont gérées par le Québec, mais les juges sont nommés par le fédéral. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de juges, plus les juges administratifs, des milliers de juges qui sont nommés par le fédéral. Et on a vu il y a quelques années qu'il y avait un certain nombre de problèmes, de scandales qui sont ressortis, c'est-à-dire que il y avait une espèce de profilage politique qui était fait. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous étiez un avocat qui avait donné au Parti libéral du Canada, ben voilà, ça l'a aidé. Autrement dit, il y avait un processus officiel avec un comité des experts, des gens du barreau et tout, qui faisaient des recommandations. Puis après ça, il y avait le personnel politique qui repassait un petit peu sur la liste puis qui s'assurait que les donateurs au Parti libéral soient avantagés au moment de nommer des juges. Et au départ, ça pouvait sembler du patronage. Ça pouvait sembler simplement, c'est des emplois extrêmement payants, 300-400 000 par année. Donc, de favoriser des proches du parti, voilà, c'est un classique de gouvernement. Ils n'ont rien inventé. Mais là, Antoine Robitaille s'est posé la question suivante. Okay, c'est une chose qu'il y a des postes avec de l'argent public à 300-400 000 par année offerts à des amis du parti. Déjà, en soi, c'est un problème d'éthique et tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension ici, qui n'est peut-être pas le cas pour d'autres types de postes? Est-ce que ce profilage politique-là, en amont, lors de la nomination des juges par le gouvernement fédéral, est-ce que ça n'a pas un effet sur les jugements, sur la jurisprudence, et un effet idéologique? Et c'est là où les enquêtes journalistiques ne pouvaient pas vérifier ça. Là, ça dépassait simplement de regarder les donateurs puis les nominations. Là. On n'était plus là. Là, on était vraiment dans un travail de recherche de niveau universitaire. Alors, c'est pourquoi Antoine Robitaille est venu me voir.
Le grand test général, ça sera si la loi sur la laïcité va devant la Cour suprême.
Ouais, effectivement. Donc là, nous, ce qu'on, en gros, les constats du livre, on regarde c'est quoi la pensée des Trudeau, père et fils. Donc essentiellement pour la centralisation fédérale, pour la Charte canadienne des droits, particulièrement le droit à l'égalité, plus que la liberté d'expression, où parfois on veut pas de liberté d'expression là, qui soit exercée de manière à déplaire à certaines minorités. Le multiculturalisme, le bilinguisme, c'est-à-dire la promotion de l'anglais au Québec, du français dans les autres provinces. Donc on définit les grands éléments de la pensée des Trudeau. Puis ensuite, on sélectionne un certain nombre de jugements. Donc essentiellement, les jugements Cour d'appel, Cour suprême, Cour d'appel du Québec, Cour suprême du Canada, dans des affaires qui concernent le Québec et qui concernent ces éléments de l'idéologie des Trudeau.
Et qu'est-ce qu'on constate dans cette analyse?
Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une majorité de jugements, donc 58,6% qui sont conformes à la pensée des Trudeau, contre à peine 27,6% qui ne sont pas conformes. Donc plus du double de décisions conformes à la pensée des Trudeau, donc soit parce qu'ils sont des jugements centralisateurs qui favorisent les compétences fédérales, soit parce que c'est des jugements qui interprètent largement la Charte des droits, par exemple le droit à l'égalité, ou encore les droits linguistiques qui vont être pour le français, vous allez dire pour le français dans les autres provinces, mais non, parce qu'on regarde des jugements au Québec, donc pour l'anglais au Québec. Et il y a un certain pourcentage, 13,8% de jugements neutres. Donc ça, c'est en général dans les 29 jugements qu'on a sélectionnés. Mais si on regarde plus précisément la catégorie des droits individuels, là, c'est 70,6% de jugements conformes contre à peine 17,6% de jugements non conformes. Donc clairement, les juges nommés par Trudeau ont une interprétation de la Charte canadienne des droits et des droits linguistiques conforme à la pensée des Trudeau, plus qu'en partage des compétences. Parce que quand vient le temps de déterminer si une loi fédérale empiète sur les compétences du Québec ou l'inverse, une loi québécoise empiète sur les compétences fédérales, là, c'est pratiquement 50-50. Donc, il n'y a pas de tendance des juges nommés par Trudeau à rendre des jugements centralisateurs dans le sens de la pensée des Trudeau. Donc, ça, d'accord, c'est intéressant. Mais au niveau de la Charte canadienne, c'est extrêmement clair. La tendance est extrêmement forte des juges nommés par Trudeau à avoir une interprétation conforme à la pensée des Trudeau. Et ça correspond à notre hypothèse. Pourquoi? Parce que dans les scandales dont je vous parlais tantôt, il y en a un que j'ai oublié, c'est un cas, c'était le plus intéressant pour nous, c'est qu'à un moment donné, l'ancienne ministre de la Justice, Julie Wilson-Raybould, a proposé, suite à un comité et tout, un processus, qu'il y ait un candidat qui devienne juge à la Cour suprême. Et le premier ministre Trudeau est intervenu pour bloquer cette nomination.
Pourquoi?
Précisément parce que le juge en question n'était pas suffisamment libéral en matière d'interprétation des droits individuels de la Charte canadienne.
Pourquoi on n'entend pas parler de ça dans les médias?
Ça a été dans les médias à l'époque, mais pas suffisamment, si vous voulez mon avis. Puis ça a été repris, là, la presse canadienne, le devoir. Bon, il y en avait été question, mais je pense qu'on n'est pas assez... Il y a encore de la naïveté au Canada, contrairement aux États-Unis où ces questions-là sont débattues. Oui. Au Canada, il y a encore une naïveté par rapport à ça. Il y a encore une gêne. Ou des fois, les non-juristes ne connaissent pas trop ça, donc hésitent à s'aventurer. Les juristes veulent participer dans le système, sont avocats et tout, donc se gardent une gêne. Fait qu'il n'y a pas grand personne qui ont l'expertise et une position qui leur permet de débattre de ça librement. C'est peut-être ce qui explique cela. Donc c'est ça. Donc, il y avait ce cas-là qui est arrivé. Donc, nous, l'information qu'on a, sans prétendre qu'on... Non, on sait pas tout ce qui se passe dans le bureau de M. Trudeau, mais l'information qu'on a, c'est qu'il y a au moins un cas d'ingérence politique à des fins idéologiques qui concerne la Charte canadienne des droits. Et on n'a pas de cas semblable en ce qui concerne les partages des compétences. Donc, on n'a pas de cas où M. Trudeau serait intervenu pour dire « Il y a un juge, je refuse une candidature d'un juge favorable à l'autonomie provinciale. » Donc, notre hypothèse, c'était que c'était plus dans le sens de... dans les jugements concernant les droits individuels, qu'on allait voir l'influence du trudeauisme. Et c'est les résultats qu'on a. Alors, à un moment donné, je pense que la preuve devient... La démonstration devient assez convaincante, là.
Dans les cas individuels, vous avez quelques exemples, par exemple, qui sont assez typiques, assez représentatifs de cet état d'esprit?
Oui, parfaitement. Le cas le plus connu, c'est peut-être le jugement dans l'affaire Ward. Donc, on a un humoriste, Mike Ward, qui fait des blagues au sujet d'un enfant handicapé, le petit Jérémy. Et là, le petit Jérémy, avec la commission des droits, poursuit... Mike Ward, non pas pour diffamation, ce qui aurait peut-être été une façon classique de procéder, ça aurait peut-être marché ou pas, mais pour discrimination. Alors là, ça se retrouve en cour d'appel, et là, en cour d'appel, la cour d'appel donne raison au petit Jérémy. Donc, 2 juges sur 3, les juges nommés par Trudeau, donnent raison au petit Jérémy. Donc, font primer le droit à l'égalité, une certaine interprétation du droit à l'égalité qui ferait qu'on, au nom du droit à l'égalité, on n'aurait plus le droit de faire de blagues sur, liées à des motifs illégaux de discrimination comme le handicap. Mmh. Et la liberté d'expression devient un peu moins importante. Donc, dans l'idéologie de Trudeau, le droit à l'égalité, la non-discrimination, c'est plus important que le droit à l'égalité. Donc, on trouve cette logique-là. Et en Cour suprême, le jugement est renversé. Donc, la majorité de la Cour suprême va plutôt donner raison à M. Ward. Mais les juges nommés par Trudeau seront minoritaires. En fait, le juge Cassira, nommé par Trudeau, est minoritaire. Et lui aurait donné raison au petit Gabriel. Donc, au petit Jérémy. Donc, dans les deux cas, on voit que ça correspond à notre hypothèse. Un autre exemple, c'est que c'est un cas où il est question de la Charte de la langue française. Donc, la loi 101 qui protège le français au Québec a été très combattu par Trudeau père, dans une moindre mesure par Trudeau fils. Et là, ça se retrouve, et la question qui se pose, c'est, dans cette loi-là, il y a un droit à l'éducation en français. C'est vraiment un droit linguistique fondamental. C'est au cœur de la Charte de la langue française. Et là, à un moment donné, il y a un juge, c'est un jugement sur la garde d'un enfant. Et là, il y a différents facteurs, savoir est-ce qu'on donne la garde au père ou à la mère. Mm-hmm. Là, le juge, parmi tous les facteurs qu'il a analysés, il prend en question, il donne... Un des facteurs qui fait qu'il donne la garde à un des parents, c'est que ce parent-là souhaite envoyer l'enfant à l'école française, alors que l'autre parent souhaitait plutôt l'envoyer à l'école anglaise. Et là, ça joue. Donc, le juge nous dit le droit à l'éducation en français, c'est un droit linguistique fondamental, c'est important. Donc, quand on juge de la garde d'un enfant, il faut tenir compte, dans l'intérêt de l'enfant, de la question du français. Et là, ça sera en cour d'appel. Et là, la cour d'appel confirme le jugement de première instance, qui donne la garde en se fondant notamment sur le droit à l'éducation en français.
D'accord.
Mais la Cour d'appel rejette cet argument-là, dit « On est d'accord avec la conclusion du jugement de première instance, mais c'est pas vrai que le droit à l'enseignement français, c'est important en matière de garde. » Donc, ils font vraiment tout pour diminuer la portée normative de ce droit-là et de la Charte de la langue française de manière plus générale. Alors, clairement, c'est un jugement où il y a une certaine... Je ne sais pas si on peut dire hostilité ou en tout cas une résistance face à la Charte de la langue française. Alors ça, c'est un autre exemple de jugement conforme à la pensée des Trudeau.
Au fond, le projet C-63 du fédéral qui veut établir une nouvelle loi de contrôle de l'expression sur Internet,
ouais.
Est-ce qu'il n'est pas lui aussi, on l'a surnommé un peu la loi Minority Report, parce que justement... je me rappelle plus du nom de cette journaliste, mais également ce journal de Québec ou de Montréal, avait dénoncé cette loi, enfin ce projet de loi, en soulignant qu'un des articles stipulait que justement le principe était que la dénonciation pouvait se faire sur simplement le fait de croire que quelqu'un avait l'intention de publier quelque chose qui ne corresponde pas à la Charte des droits fondamentaux. Bon, ça va donc beaucoup plus loin, c'est même pas un fait établi, c'est simplement sur une présomption d'un fait possible pouvant se réaliser. Mais finalement, est-ce que cette loi, qui s'abrite derrière toujours le même discours, on protège les enfants, mais en vérité, on sait que c'est une sorte de contrôle politique un peu qui se met en place, est-ce que cette loi, elle n'est pas finalement... je dirais l'apothéose de cette pensée trudeauiste.
Donc, je n'ai pas lu le détail du projet de loi, mais je connais un peu le dossier, je connais l'idée. Puis effectivement, ça me semble en droite ligne avec la pensée des Trudeau qui est analysée dans le bouquin, c'est-à-dire une pensée qui place la question du droit à l'égalité, donc la protection de groupes vulnérables. C'est vraiment au cœur de la pensée des Trudeau, c'est ce qui est le priorisé. Puis la liberté d'expression, c'est une des libertés là, moins importantes pour Trudeau fils.
Mais en même temps, ne faut-il pas défendre justement ces principes d'égalité, justement vis-à-vis des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, les minorités, qu'elles soient de genre, de race, de couleur, de religion, etc. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation quand même légitime quelque part?
Oui, tout à fait. Nous, en fait, on ne porte pas de jugement moral dans le livre. On fait juste dire « voici ». La pensée des Trudeau, donc par exemple, une insistance davantage sur la lutte à la discrimination aux dépens de la liberté d'expression. Puis là, on peut être d'accord ou pas, on peut penser que non, c'est préférable la liberté d'expression, même quand ça heurte des minorités, ou au contraire, on peut penser que c'est mieux de protéger les minorités, même si ça limite la liberté d'expression. On ne se prononce pas là-dessus, on fait juste dire que la pensée de Trudeau priorise davantage la protection des minorités, et plusieurs juges nommés par Trudeau ont aussi le même genre d'interprétation dans leur jugement. Donc voilà.
D'accord. Ouais, donc ça, c'est un équilibre qu'il faut réussir à trouver entre les deux.
Exactement.
Est-ce que cet équilibre-là n'est pas plus facile à trouver dans le cadre provincial que fédéral? compte tenu des particularités culturelles de chaque province. Parce que même, bon, le Québec, le cas du Québec, logiquement, puisque effectivement c'est francophone, mais je veux dire, entre l'Alberta, la British Columbia, l'Ontario, etc., il y a aussi beaucoup de différences culturelles, finalement, les uns des autres. Est-ce que finalement, le Québec n'aurait pas intérêt à convaincre, y compris d'autres États, y compris anglophones, à s'orienter vers leur particularisme, puisqu'après tout, c'est le discours de Trudeau, le particularisme, sa singularité, etc. Est-ce que ce ne serait pas, justement, retourner un peu le discours contre l'auteur?
Mais en tout cas, je sais qu'il me semble y avoir une particularité québécoise dans ce débat-là, parce que la question de la liberté d'expression s'est ressortie beaucoup. La lutte contre la culture du bannissement, de l'annulation, c'est plus fort en France qu'ailleurs, c'est plus fort au Québec qu'en autre province. Maintenant, vous avez quand même raison que voilà, le Canada anglais n'est pas un bloc monolithique, puis on pourrait faire la distinction entre l'Ontario ou certaines provinces et certaines provinces de l'Ouest, et la Colombie-Britannique, c'est encore autre chose que les prairies. Donc, on pourrait faire ces distinctions-là, mais je pense quand même que la différence plus fondamentale dans ce débat-là, comme dans d'autres, demeure celle entre le Québec et le reste du pays.
Parce qu'on le voit sur la taxe carbone, on en a parlé au début. Une majorité d'États canadiens aujourd'hui sont contre Trudeau sur cette taxe. Et d'ailleurs, il est en train de reculer progressivement. Le NPD a retiré son soutien également là-dessus. Il revient en arrière aussi là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la fin du règne Trudeau?
Ça ressemble à ça. C'est ce que les sondages annoncent. Puis c'est la durée de vie à peu près normale. Là, l'équivalent, donc un troisième mandat, mais qui est en fait, en quelque part, un peu comme un deuxième parce qu'il y en a eu un plus court. Là. Donc deux mandats et demi. C'est dans la durée à peu près normale des gouvernements. Si jamais M. Trudeau se faisait réélire, ce serait vraiment un record. Là, quatre fois de suite, je pense que ça s'est pas vu depuis Laurier au début du 20e siècle. Donc effectivement, ça ressemble à la fin. En même temps, il faut se méfier. C'est un politicien extrêmement habile que personne ne voyait premier ministre en 2015. Puis il l'est devenu. Il ne faut pas oublier non plus le précédent de son père, qui a été premier ministre de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Et là, à un moment donné, il se retire. Gouvernement minoritaire conservateur. Et là, boum, Trudeau père revient quelques mois plus tard. Alors, et c'est là qu'il fait son rapatriement de la Constitution. Donc, il était loin d'être fini. Alors, faut pas exclure. Là, évidemment, les sondages ne nous annoncent pas un gouvernement conservateur minoritaire. Là, ils nous annoncent un gouvernement largement majoritaire. Mais une campagne électorale plus ou moins réussie par M. Poilievre pourrait mener à un gouvernement conservateur minoritaire. Puis là, ben, M. Trudeau peut revenir rapidement après.
En même temps, le talent n'est pas héréditaire.
Non, mais c'est-à-dire, non, mais force est de constater que M. Trudeau, fils, a quand même un certain talent de communication. Je pense pas qu'il y a la profondeur intellectuelle de son père, mais en termes de communication, d'efficacité politique, je comprends qu'il a fait une seule élection majoritaire, puis ensuite deux minoritaires, donc qui est évidemment des scores moins intéressants que ceux de son père. Là. Oui. Mais bon, à la fin de la journée, c'est quand même pas rien d'avoir été premier ministre du Canada pendant 10 ans.
Est-ce que le NPD peut lâcher vraiment Trudeau?
Si les sondages montent, si les libéraux continuent de descendre, puis que le NPD, si une année de les courbes devaient se croiser, là oui, je pense que le NPD serait partant pour aller en élection.
D'autant plus que l'économie canadienne va mal aujourd'hui.
Oui, effectivement. Avec l'inflation continue, et donc... Effectivement.
Comment on explique que l'économie canadienne ne profite pas un peu de la croissance américaine à côté?
Ben, l'économie canadienne, traditionnellement, il y a souvent eu plus de chômage au Canada qu'aux États-Unis. Puis là, les politiques du gouvernement Trudeau avec beaucoup de dépenses, à ce moment-là, ça nourrit l'inflation. Donc, ça, quoi qu'aux États-Unis aussi, il y a des politiques quand même d'investissement par l'État fédéral. Mais je pense que les politiques du gouvernement Trudeau au niveau économique, là, c'est vraiment pas l'idéal. Puis il y a toute la politique d'immigration massive qui est vraiment plus forte au Canada qu'aux États-Unis. Et ça aussi, ça alimente la crise du logement, donc l'inflation.
Est-ce qu'on peut parler d'une dynastie Trudeau?
Oui, je pense qu'à partir de... Il faudrait regarder un peu comme dans mon livre. Moi, je parle de famille politique. Donc, je définis le concept de famille politique, qui n'est pas nécessairement un parti politique. Oui. C'est plus un courant d'idées qui peut être traversé différents groupes parlementaires et tout. Donc, il faudrait voir... moi, j'ai regardé, là, puis j'ai retrouvé des définitions dans des écrits scientifiques là, du concept de famille politique. Donc, il faudrait regarder dynastie. Est-ce qu'on peut en parler à partir de deux générations? J'aurais l'impression que oui.
D'accord. Alors, on va mettre une chanson, une petite chanson, Et puis, on va reprendre, on va mettre une chanson des Cowboys Fringants. Hein. L'Amérique pleure. Ouais, c'est vrai qu'elle pleure un peu en ce moment quand même. Donc, c'est pas à cause du temps qu'il fait, mais voilà. Hop, c'est parti. Bon, bah, c'est toujours un plaisir d'écouter les Cowboys Fringants. Voilà, c'est l'Amérique pleure. Alors, l'Amérique, je sais pas si elle pleure. En tout cas, Attal est venu.
Ouais.
En France, on veut pas rester 10 minutes là-dessus. Hein. Bon, voilà, c'est parce que ça frise quasiment le non-événement. Enfin, moi, je suis français, donc pour moi, c'est un peu le non-événement. Mais donc, il est venu. Alors, je sais pas, moi, parfois, je suis un peu naïf. Alors, je me suis dit, oh, tiens, super, il va prendre le chemin des rois. Il va aller à Montréal. Il va porter, justement, puisque la commission scolaire English Montréal vient de faire un pourvoi contre la loi laïcité après la belle victoire à la cour d'appel. On va en parler après. Et là, je m'attendais à ce que Attal, quand il a commencé à parler de laïcité, apporte un soutien à cette loi 21, montre un engagement de la France là-dessus. Bah, hein, comme disait Chirac, ça fait pchit. Bon, hein, ça fait pchit.
Non, je partage pas votre interprétation. Au contraire, moi, je trouve qu'il est allé très loin. T'sais, normalement, on s'attend d'un dignitaire étranger, un chef de gouvernement qui se mêle pas de politique locale. Évidemment, il peut mentionner des valeurs communes, partager, bon, voilà, tout ça, dire un peu des banalités de la tarte aux pommes. Mais là, il est allé très loin. Non seulement il a dit que il a parlé de l'attachement des Québécois à la laïcité, ce qui est un sujet un peu controversé qui divise voilà, certains partis d'opposition sont contre la loi sur la laïcité. Donc, l'ultra-prudence, l'ultra-diplomatie aurait été de ne pas en parler. Il en a parlé.
C'est vrai.
Il a mentionné que les Québécois y étaient attachés. C'est leur représentant. Donc, ovation debout. Et là, il fallait voir je pense que je l'ai partagé sur mon Twitter. Il y a quelqu'un qui a pris une photo du ministre qui avait fait adopter à l'époque la loi sur la laïcité, le ministre Jolin Barrette, qui a un sourire moqueur de satisfaction. Et en face, il y a le chef du Parti libéral contre la loi sur la laïcité qui applaudit, mais avec un visage complètement débiné. Alors, c'est vraiment très drôle de mettre les deux images côte à côte. Bref, il a fait ça, puis il est allé même plus loin. Parce qu'il a dit, il a critiqué ceux qui font mine de croire que la laïcité est discriminatoire. Donc là, c'est une attaque directe au parti d'opposition, c'est une attaque directe au Parti libéral et à Québec solidaire. Jamais un chef de gouvernement étranger ne fait ça. Je veux dire, c'est sans précédent depuis le Vive le Québec libre. Et là, je suis pas en train de comparer les deux. Là, évidemment, c'est un beaucoup moins grand événement ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais quand même, comparé à Hollande. Moi, j'y étais, Hollande 2014.
Oui.
J'y étais, c'était un discours très correct, mais il n'y avait rien. Le lendemain, il n'y avait pas de. Voilà. Il n'y avait pas pris position pour une position des libéraux contre le Parti québécois ou inversement. C'était un discours diplomatique, gentil sur l'amitié France-Québec, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de croustillant. Là, on est à des années-lumière. Et par ailleurs, M. Attal est un meilleur orateur que M. Hollande. Et il représente,
oui,
je pense.
Pas photo.
déjà à l'époque, même 2014, même s'il restait trois ans son mandat. Non, c'est pas vrai, 2014, ouais, c'est ça, il restait trois ans son mandat, je pense. Donc, M. Hollande était, voilà, déjà était un peu en difficulté. Bon, évidemment, M. Attal aussi est en difficulté, mais de par son parti, de par son jeune âge, il représente quand même possiblement, voilà, l'avenir de la France, un peu comme Fabius au milieu des années 80. Peu importe ce qu'on pense du personnage, il incarnait la suite des choses pour le Parti socialiste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, M. Attal représente en quelque part l'avenir. Peut-être pas l'avenir de la France, mais l'avenir du centre,
en tout cas,
des centristes.
Un avenir politique
possible. Il est talentueux, peu importe qu'on soit d'accord ou pas que c'est politique, il m'apparaît extrêmement talentueux. Alors, son discours était d'un haut niveau, puis sur le fond, il est venu appuyer le Québec qui en avait besoin, et je pense que c'est important.
Alors, c'est vrai que comme ministre de l'Éducation, il avait tranché avec son prédécesseur,
ouais,
en rappelant justement des fondamentaux de laïcité. La laïcité québécoise, la loi 21, alors vous en êtes un acteur, hein. Cette loi 21 est pourtant très, très, très soft par rapport à la loi sur la laïcité en France. Quelles seraient un peu les différences finalement entre le modèle français de laïcité, qui est assez ferme, qui est assez dur, et le modèle québécois, que vous êtes justement, dont ouais, vous êtes un des acteurs et un de ceux qui sont en train de l'imaginer.
Tout à fait. Donc, sur le plan technique, là, si on regarde les règles, donc juridiques un peu techniques, en France, il y a une interdiction du port de signes religieux non seulement pour tous les fonctionnaires, alors qu'au Québec, c'est seulement certains fonctionnaires avec une
dans position d'autorité. Dans les services régaliens de l'État, simplement.
Oui, exactement. Je pense qu'on c'est une façon de le résumer, alors qu'en France, c'est plus large que ça. Puis ensuite, en France, il y a une interdiction du port de signes religieux à l'école publique pour les élèves, ce qui n'existe pas au Québec. Donc, sur le plan technique, on voit que ça va plus loin en France. Sur le plan philosophique, je pense que les grands principes sont les mêmes.
Mm-hmm.
Séparation de l'Église et des Églises et de l'État. Liberté de conscience, liberté de religion, égalité citoyen-citoyenne, neutralité religieuse de l'État. Mais en France, je pense qu'il y a l'idée de l'émancipation individuelle, l'émancipation citoyenne est plus forte. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, bon, une personne est née dans une famille X de telle religion et tout. C'est pas le rôle de l'école de faire en sorte que la personne renie sa religion, mais c'est peut-être le rôle de l'école de faire en sorte que la personne soit équipée sur le plan intellectuel et conscientisé par rapport à sa liberté de conscience pour avoir le bagage intellectuel, soit pour adhérer de manière plus consciente et volontaire à la religion de ses parents qui lui a été transmise, ou pour la quitter. C'est pas le but de l'école que les gens quittent leur religion, mais c'est faire en sorte que la personne soit à même de faire des choix, d'avoir un regard critique sur tout, y compris sur sa famille, sur sa communauté religieuse ou ethnique d'appartenance. Donc je pense qu'on a cette philosophie républicaine-là en France davantage qu'au Québec. Donc au Québec, si on avait pensé au principe d'émancipation individuelle et citoyenne dans la loi, si on l'avait mis comme principe, ça nous aurait peut-être mené plus loin. L'autre distinction que j'ai remarquée aussi, c'est que dans la loi sur la laïcité de l'État, il y a le droit à des services publics laïques au Québec. Donc les interdictions, l'interdiction du port de signes religieux, l'interdiction pour les fonctionnaires de se couvrir le visage, c'est pour s'assurer du respect du droit des services publics laïques. Donc, même s'il y a aussi une philosophie républicaine derrière la loi sur la laïcité québécoise, il y a aussi un côté plus libéral, ne serait-ce que dans la forme. Alors qu'en France, on parle du principe de laïcité,
oui,
duquel découlent des interdictions, mais on parle rarement, à ma connaissance, d'un droit à des services publics laïques. C'est moins présenté comme
ça.
C'est vrai,
tout à fait. Voilà. Alors, cette loi laïcité, elle fait peur, justement, certains. Peut-être que certains se disent, oui, mais est-ce que, justement, on commence pas avec un modèle plutôt ouvert, finalement, assez libéral au Québec, et qu'on risque pas de se prendre le doigt dans l'engrenage et de finir avec un modèle à la française, très strict, plus fermé. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le fond de la saisie, par exemple, de cette commission scolaire English Montréal?
Ben, en fait... Fermé, ouvert, je me méfie un peu de ces termes-là qui me semblent un peu connotés, mais je comprends le sens de votre question. Et depuis 5 ans, là, on va célébrer en juin prochain les 5 ans de la loi sur la laïcité de l'État. Il n'y a pas eu de durcissement, il y a eu une application de la loi, donc on a décidé que les hauts représentants du clergé n'avaient plus leur place dans les cérémonies officielles de l'État. Bon, il y a différentes choses, on a retiré des crucifix, des palais de justice. Bon, il y a des choses qui ont été faites, mais qui étaient l'application de la loi et non pas sa radicalisation. Et il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas de projet pour modifier la loi, aller plus loin dans les interdictions, par exemple viser les élèves des écoles. Donc à partir de là... Je pense que c'est une crainte qui est empiriquement pas fondée, là.
Est-ce que, par contre, c'est pas un argument, la laïcité, justement, par rapport aux peuples autochtones? Je me suis récemment intéressé à la question liée à ces enfants, 150 000 enfants, qui ont disparu, si on peut dire, dans les pensionnats dans le pays. Est-ce que, finalement, la laïcité est pas aussi... à l'inverse de ce que dirait M. Trudeau, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, la meilleure garantie aussi de la reconnaissance des droits, de l'identité, des croyances collectives, individuelles, spirituelles, de ces peuples aussi. Est-ce que ce n'est pas une arme aussi pour eux?
Ben, je pense que oui, parce que la laïcité, c'est le fait que l'État n'adhère pas à une religion. Et on s'entend que si l'État... adhérer à une religion, comme il l'a déjà fait dans un passé pas si lointain, mais ce ne serait pas des spiritualités autochtones, ce serait des religions d'origine occidentale, européenne et tout. Donc, la laïcité, ça permet de faire en sorte de donner la liberté de conscience à tout et chacun. Puis la liberté de conscience, ça peut être utilisé pour adhérer à des spiritualités autochtones. Donc, il y a ce volet-là. Ensuite, au moment de l'adoption de la loi, là, il y avait la question de l'interdiction du port de signes religieux pouvait, dans certains cas, poser des questions à certaines communautés autochtones. Et il y a eu des contacts qui ont été faits à l'époque. Il y a eu un dialogue avec les nations autochtones pour s'assurer qu'il n'y avait pas particulièrement d'enjeux de leur côté. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui sont chrétiens. On parlait des spiritualités autochtones tantôt, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont chrétiens et parfois plus pratiquants
que... Qui ont été christianisés.
Qui ont été christianisés, qui sont parfois plus, aujourd'hui plus pratiquants que des non-Autochtones. Mm-hmm. Et donc, là, il y avait peut-être un enjeu, mais à cet égard-là, la loi s'applique comme aux non-Autochtones. Mais pour ce qui est des spiritualités autochtones, comme c'est très holistique suivant... Souvent, donc c'est pas un Jésus sur la croix, quelque chose de très précis, et tout le reste n'est pas nécessairement connecté religieusement. Chez les Autochtones, ça peut être plus complexe. Ça peut être une plume qui est à la fois un symbole d'un ancêtre, d'un animal à laquelle on est associé. Puis ça a un petit côté spirituel, mais pas que. Donc là, est-ce qu'on interdit le port de cette plume-là? Le choix qui a été fait dans la loi sur la laïcité, c'est-à-dire que non. Quand on a une conception tellement large, tellement holistique de la spiritualité, ben après ça, tout devient un signe religieux, pratiquement. Ouais. Hein? Donc là, à ce moment-là, on peut pas tout interdire. La logique de la loi ou l'interprétation de la règle sur l'interdiction du port de signes religieux, c'est ni très large, ni restrictif. Là. C'est comme une espèce d'interprétation équilibrée que je propose dans mon bouquin, la loi sur la laïcité de l'État, commentée, annotée. Je pense que ça va exclure la plupart des signes liés aux spiritualités autochtones.
Très bien. Comment s'envisage la suite judiciaire, puisque là maintenant, il y a donc un pourvoi vers la Cour suprême?
En fait, il y a une permission d'en appeler à la Cour suprême, et qui est annoncée par la Commission scolaire English Montreal. D'autres suivront probablement. Donc, d'autres qui avaient contesté la loi jusqu'en cours d'appel, d'autres parties là, opposées à la loi vont sans doute également demander une permission d'en appeler. Puis ensuite, ben, on attendra la décision de la Cour suprême.
Est-ce que là, on ne va pas retomber justement dans le piège de cette Cour suprême qui a été majoritairement nommée par Trudeau?
Oui, effectivement. Donc là, on a 6 juges sur 9 qui ont été nommés par Justin Trudeau. Et ce qui est dommage, c'est qu'en plus, il a politisé l'affaire beaucoup, Justin Trudeau, en annonçant que le procureur général du Canada, donc l'avocat du gouvernement du Canada, allait intervenir dans la cause pour empêcher le Québec d'utiliser la disposition de souveraineté parlementaire de manière préventive, donc une disposition qui permet de protéger la loi contre des contestations. Alors que normalement, si la justice constitutionnelle, là, c'était zéro politique, que c'était vraiment que du droit complètement séparé de la politique, ben M. Trudeau ne serait jamais intervenu là-dessus, ce serait impensable. Ou si les journalistes lui posent la question, est-ce que vous allez intervenir contre la loi sur la laïcité, ben il aurait dit... Premièrement, il n'y a pas encore d'appel, il n'y a pas encore de permission d'en appeler à la Cour suprême. Puis même à l'époque, on lui avait posé la question, je ne sais même pas si on était rendu en cours d'appel, donc c'était totalement hypothétique. Fait que premièrement, il aurait refusé de répondre. Puis à la limite, il aurait dit, le jour où il y aura une permission d'en appeler à la Cour suprême, le cas échéant, ben les procureurs au dossier, les avocats du gouvernement vont rendre un avis juridique. Puis la procureure, il y a une décision qui sera prise, comme dans tous les dossiers, comme dans les milliers de dossiers qui se rendent dans les cours supérieures, cours d'appel, les dossiers qui se rendent en Cour suprême. Il y a une décision qui est prise par les avocats au dossier. Point. C'est pas politique, autrement dit. Mais c'est pas. Dans un monde idéalisé par certains où ce serait pas politique, ces dossiers-là, c'est comme ça que ça serait pas passé, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. M. Trudeau a hyper politisé l'affaire en disant qu'il allait intervenir, en disant que c'était discriminatoire, qu'il fallait modifier la Constitution par l'interprétation des juges. Mais là, une fois qu'il a fait ça, excusez-nous de poser des questions sur la nomination de 6 juges sur 9 par M. Trudeau.
Est-ce qu'il veut faire en 2024-2025 ce que son père a fait en 82?
Ben, c'était effectivement, si jamais il y avait un jugement de la Cour suprême qui venait limiter l'usage de la souveraineté parlementaire et plus précisément de la disposition de souveraineté parlementaire là, qui permet notamment au Québec de protéger ses lois contre certaines contestations constitutionnelles fondées sur la Charte canadienne, imposées par Trudeau père contre la volonté du Québec, forcément, ce serait une suite du coup de force de 82 qui serait poursuivi par le fils une cinquantaine d'années plus tard.
La logique dynastique.
Voilà.
En quelque sorte.
Ouais.
Le français menacé aujourd'hui, quand même, de plus en plus, des craintes. On entend de plus en plus au Québec des voix qui s'élèvent pour dire... Cette immigration, elle vise à nous noyer et à nous rendre minoritaires dans notre propre province. Est-ce que c'est le cas?
Ben en fait, il faut comprendre que effectivement, l'immigration peut jouer contre le français pour des raisons mathématiques, puis c'est pas un jugement contre les personnes immigrantes, il faut toujours bon de le rappeler. Donc, c'est assez simple, c'est qu'il y a une proportion de francophones qui... Ça dépend du critère qu'on utilise, selon qu'on utilise les critères de la langue maternelle, langue à la maison, langue du travail, langue dans l'espace public. Bon, ça varie, mais c'est autour de 75 à 80 de francophones au Québec. Dans la composition de l'immigration, c'est moins que ça. Ce serait très difficile d'avoir des niveaux d'immigration, donc de 80% francophones. C'est extrêmement difficile parce que, bon, il y a des immigrants français, mais c'est très difficile d'avoir une 80% d'immigrants français quand on sait que les réfugiés, ben c'est pas sont pas sélectionnés tant que ça. Bon, ensuite, là, il y a toutes les ceux pour qui le français est une deuxième langue, donc beaucoup de gens en Afrique qui vont parler une langue autochtone
en
africaine.
En fait, il y a beaucoup de Français qui viendraient sûrement ici, si c'était pas si compliqué.
Ouais, effectivement. Mais c'est ça, ça c'est l'autre chose. Donc, je pense que donc à l'heure actuelle, les volumes
d'immigration... C'est peut-être ça la solution, d'ailleurs.
C'est ce que je pense.
Peut-être Parce que moi, je suis certain, je suis très convaincu, j'ai encore beaucoup de contacts en France, mais beaucoup, quand moi je suis venu ici en tout cas, beaucoup m'ont dit « Ah, mais ça leur a donné l'envie, l'idée, etc. » Et beaucoup de Français seraient tentés de venir ici. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, finalement. Pour les Français. C'est presque plus compliqué, finalement, pour des Français de venir au Québec que pour des Sud-Américains de franchir la frontière et de s'installer au Canada.
Ça, c'est la problématique de l'immigration illégale. En même temps, on dit, voyez-vous, les francophones des autres provinces, notamment les universités francophones ou en tout cas bilingues des autres provinces, se plaignent qu'au Québec, c'est plus facile, c'est plus rapide, puis qu'on le Québec attire tous les immigrants francophones. Donc, voilà, donc l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais c'est sûr qu'il pourrait y avoir une augmentation de la proportion de francophones, particulièrement de Français, dans l'immigration. Mais pour l'instant, et ça semble quand même complexe, parce que les réfugiés, bon, on ne les choisit pas là, par les demandeurs d'asile, par définition. Là. Donc, tout ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas historiquement, d'avoir une proportion de francophones, d'immigrants francophones à 80%. Donc, voilà, c'est juste très difficile. Donc, mathématiquement, dès que vous avez une proportion de francophones parmi vos immigrants en deçà du pourcentage de francophones de la société d'accueil, bien forcément, ça a une logique. Mathématiquement, ça favorise pas l'épanouissement du français au Québec. Donc, c'est ça la dynamique dans laquelle on est. Ensuite, ça existe des cours de francisation. Et c'est possible. Ensuite, il y en a qui font toute la nuance de dire, ben, en fait, la langue à la maison, c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est la langue dans l'espace public. Et là, vous avez des arabophones, des hispanophones qui peuvent parler une autre langue à la maison, mais le français dans l'espace public. Et ce serait parfaitement, ce serait génial, selon certains. À mon avis, c'est très bien, effectivement. Mais je pense pas qu'on peut faire complètement abstraction de la langue à la maison, puisque la langue à la maison, c'est un indicateur pour le futur. La langue à la maison, c'est celle qui est transmise aux enfants. Donc, si vous avez un haut taux de transmission de la langue à la maison, forcément, ça veut dire que la prochaine génération, la langue est sauvée.
Perpétuera.
Alors qu'à partir du moment où vous avez une langue parlée dans l'espace public, mais de moins en moins à la maison, le portrait de la langue dans l'espace public, c'est un instantané du présent. C'est bien, mais ça nous dit très peu de choses sur l'avenir. Alors, ça a ses limites. Et encore là, bon, ben, les immigrants, même ceux qui se francisent, vont continuer de parler leur langue à la maison, mais c'est pas le cas au bout de 2-3 générations. Puis ça, c'est l'autre mythe. Des fois, on dit « Ah, là, la langue à la maison, ça regarde pas l'État, et tout. » Évidemment qu'il s'agit pas d'envoyer des inspecteurs linguistiques dans les maisons, mais il reste qu'on ne peut pas complètement l'ignorer, puisqu'au bout de 2, 3 ou 4 générations, avec les mariages mixtes et tout, forcément, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'immigrants italiens des années 50 ne parlent plus italien à la maison.
Il y a longtemps. Oui.
Soit qu'ils parlent français, ou soit qu'ils parlent anglais. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, et là, il y a une proportion encore là trop grande de ce qu'on appelle des transferts linguistiques. Donc, des gens qui passent de langue maternelle ou à la maison italienne, par exemple, à l'anglais. Il y a une trop forte proportion de transferts linguistiques vers l'anglais. Donc là, il faut des politiques publiques. Par exemple, appliquer la loi 101 au cégep. Donc, faire en sorte que seuls les anglophones aient accès au cégep anglais avec pleine subvention. Et par conséquent, rediriger les francophones, les immigrants, vers les cégeps de langue française. Parce que c'est à cet âge-là, 17, 18, voilà, 19, 20 ans, que se prennent les habitudes linguistiques, que ça prend le métier, que ça prend la langue du travail et qu'on prend les habitudes culturelles, la langue des journaux, la langue du cinéma, la langue de la radio. C'est beaucoup à cet âge-là que ça se décide. Donc, ce serait vraiment une mesure importante. Le gouvernement a plutôt décidé de plafonner les places dans les cégeps de langue anglaise. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Mais l'application de la loi 101 au cégep, je pense que ce serait la prochaine étape. Là.
C'est pas un peu la faute à la télé aussi, dans le sens où, finalement, moi j'étais surpris, par exemple, parce que j'avais un abonnement Amazon Prime Video, là, en France, et quand je l'ai converti en abonnement ici au Québec, la majorité des films sont en anglais. Quand on fonctionne sur les systèmes Helix, Crave, etc., enfin tous ces bouquets de chaînes payantes là, la majorité sont en anglais. beaucoup de chaînes de télévision en anglais également. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème?
Tout à fait. Il y a un rapport qui vient d'être déposé là, au gouvernement du Québec sur ce qu'on appelle la découvrabilité. Donc, le fait qu'il faut que lorsqu'on cherche des films, ben, de par les algorithmes et tout, des productions québécoises nous soient proposées, des productions en français nous soient proposées. Donc ça, il y a un travail à faire là-dessus.
La traduction systématique.
Effectivement. Ça, dans la loi sur le cinéma, il y a déjà des choses là-dessus. D'accord. Mais effectivement, il y a du travail à faire beaucoup au niveau de la découvrabilité. Puis on sait que tout ce qui se passe sur Internet, parfois, ça l'échappe à des règles qui autrement s'appliquent à la télévision, à la radio. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Ça relève à la fois du Québec et du fédéral. C'est compliqué. C'est même parfois, il y a des aspects internationaux. Donc tout ça est assez complexe, mais il y a du travail à faire. Par contre, quand on peint un portrait un peu sombre de ça, quand on entend dire les jeunes écoutent que la TV en anglais, et tout, il y a du vrai là-dedans, mais on peut apporter les nuances. Par exemple, il y a des influenceuses québécoises, quelqu'un comme Émilie Lalune, qui fait du contenu humoristique en français, 1,5 million d'abonnés.
Bon, ben. Ah oui, c'est bien.
Et ça ne s'adresse pas à des gens comme de mon âge ni de votre âge. Donc, ça s'adresse à des ados et des pré-ados. Donc, à quelque part, ces ados et pré-ados consomment une forme de culture québécoise qui est l'humour sur TikTok, qui est peut-être pas de la haute culture, mais qui est une forme de culture québécoise en français, avec un peu l'accent de chez nous, puis avec des références culturelles parfois. Alors, voilà. Donc, c'est ça aussi la culture québécoise. C'est pas seulement les vedettes radio-canadiennes. Donc, je pense que c'est important d'inclure ça dans le débat.
C'est ça qui fait aussi l'identité.
Voilà.
Cette langue. C'est la façon dont vous la parlez, qui n'est pas la même effectivement qu'en France. Puis en France, on n'est pas exempt aussi d'anglicisme et autres
joyeusetés
du même genre. Oui, même bien au contraire. Mais c'est vrai que ce qui fait le charme de cette langue, enfin moi je m'en régale, c'est effectivement aussi les différences des accents entre différentes régions, entre les différents. On sent des influences culturelles par région et on l'entend.
Ouais. Là,
on l'entend aussi dans la musique, dans la chanson. J'ai pas le nom comme ça, mais il y a un groupe de chanteurs là qui chante vraiment dans un français typiquement québécois avec vraiment un accent très fort, etc.
Les trois accords, entre autres.
Je crois que c'est ça.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai envie de dire. Pourquoi on les voit pas plus à la télé de Radio-Canada, TVA, etc., ces artistes-là parce qu'on nous parle beaucoup de Taylor Swift et on nous parle pas finalement ces artistes-là.
Bon, effectivement, donc il y a du travail à faire, surtout quand il s'agit de postes de télévision publique. Là, je pense qu'ils doivent donner l'exemple, donc Radio-Canada, Télé-Québec en premier. Je pense qu'ils le font un peu, notamment, et même parfois plus qu'un peu, notamment à la radio, il y a des efforts qui sont faits là, par les chaînes publiques.
Super. La langue française, la laïcité, ce livre, redites-moi le titre.
Oui, donc La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire, donc que vous pouvez acheter sur le site d'Accent Bleu ou encore sur le site de l'Institut de recherche sur le Québec. Et là, on va regarder si on peut conclure quelque chose avec librairie.ca, leslibraires.ca. Mais pour l'instant, donc Accent Bleu et Institut de recherche sur le Québec pour vous procurer un ouvrage du livre, une copie de l'ouvrage plutôt.
Donc, achetez ce livre, lisez-le bien, voilà, et l'autre livre aussi sur la laïcité.
Oui, Loi sur la laïcité de l'État, commentée et annotée, philosophie, genèse, interprétation et application, qui date de déjà il y a quelques années, mais qui est toujours une source, là, si vous faites des recherches, par exemple, sur la loi 21, c'est l'ouvrage de référence.
Et comme les rockstars, les dates de tournée, donc Montréal, c'est fait, Sherbrooke, c'est fait, Québec, c'est fait, prochaine étape?
Ben, Sherbrooke, j'ai seulement donné une conférence, même avant que le livre sorte, donc je pense que ce serait bien que je fasse un petit quelque chose à Sherbrooke, le cas échéant, je vous tiendrai au courant.
Bon, donc ça sera sur Internet, sur Facebook, la page sur Facebook.
Oui, ben c'est soit la page personnelle de Guillaume Rousseau perso, ou ma page publique Guillaume Rousseau, ou encore les réseaux sociaux de l'Institut de recherche sur le Québec.
Et c'est donc là qu'on saura les prochaines dates où les auditeurs pourront venir vous rencontrer, vous pourrez leur dédicacer votre livre.
Exactement.
Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup. Bravo aussi pour le combat que vous menez.
Ben, merci à vous.
Parce que ça doit quand même pas être tout repos.
Non, ça brasse un petit peu, je vous raconterai ça hors micro.
Écoutez, mes auditeurs, bonne soirée à tous, j'espère que l'émission vous a plu, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. C'est vrai, ça a été un peu moins régulier ces derniers temps, beaucoup de travail, ce qui a fait qu'effectivement, voilà, j'ai pas eu le temps de trop chercher les invités, voilà, mais je voulais absolument Guillaume Rousseau ce soir, pour qu'on remette un peu au point tout ça. On s'était déjà vu une première fois, c'était au mois de novembre. Je crois.
Hein,
c'était en novembre. Voilà. Mais depuis, il y a eu le livre, il y a eu la cour d'appel, il y a eu beaucoup d'événements. Donc, c'était intéressant que vous reveniez pour pouvoir en discuter. Et j'en profite pour dire que renseignez-vous au niveau de la faculté de droit pour le DESS de droit politique appliqué à l'État. Il arrive à la fin de ce cursus, ce DESS. Le 24 avril, ce sera terminé.
Oui, et on est en période d'inscription, donc jusqu'au 1er mai. Puis bon, ça se continue un petit peu après. Mais pour avoir les bourses et tout, c'est bien de faire ça dans les temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi à guillaume.rousseau@usherbrooke.ca. Et si vous êtes en troisième année du bac en droit ou en troisième année du bac en sciences politiques ou dans une autre science sociale, appelez-moi et on regarde les possibilités. Et si vous êtes, si vous répondez à nos critères, ben ça me fait plaisir ensuite de regarder avec vous, de vous parler du programme, garder les possibilités de bourse, de contrat de recherche et de voir.